Juste après l'étrange festival, nous sommes restés au Forum des Images car se tient actuellement Séoul Hypnotique. Alors on va pas tout de suite parler du cycle qui continue, je pense qu'on en parlera un petit peu, justement ce sera l'occasion quand on fera le bilan du FFCP lors du prochain podcast, de reparler un peu des films proposés au Forum des Images en parallèle. Cependant, pour la rubrique preview, on voulait faire un petit focus sur Man on a Hill, qui était le film d'ouverture réalisé par Jung Jin. Je crois qu'on est pas mal à l'avoir vu.
Oui.
Martin, tu as même rencontré le réalisateur qui était présent pour cette ouverture.
Un réalisateur assez étonnant. Il faut dire, Jung Jin, d'une part, c'est un cinéaste qui a un peu passé sous les radars. Quoi.
En France.
Oui, voilà. C'est autant en Corée, il est assez populaire. Il vient de l'art dramatique. Il s'est essayé au cinéma. Et il enchaîne généralement succès et bide au box-office. Hein. Voilà. Mais il a un regard comme assez. Assez neuf, c'est-à-dire qu'il se sert toujours, comment dire, des genres très populaires pour les parasiter un peu de l'intérieur et voilà, de parler d'autres sujets société, toujours avec un humour très caustique dont on a pu vraiment avoir l'expérience quand on a vu présenter les films. Voilà, c'est un humour à très pince sans rire.
Il y avait trois films de lui, il y a trois films de lui d'ailleurs à Séoul Hypnotique. Hein.
Quatre. Alors il y en a un qui a été écrit uniquement par lui, je crois c'est Autrouf, que je n'ai pas encore vu. Il y a Guns and Talks, donc, qui était sorti chez Kubik en DVD, donc, qui est l'histoire de quatre tueurs à gages qui sont très réputés dans le milieu pour faire un bon travail. Et ils préparent un boulot assez complexe, voilà, qui a été commandité par une jeune femme mystérieuse. Et un flic assez tenace est en train de mettre en péril voilà, cette ultime mission. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il va complètement à l'encontre du cinéma d'action. C'est un film qu'on pourrait penser qu'il a enchaîné les scènes spectaculaires. Et du tout, c'est vraiment très concentré sur cette espèce d'amitié entre ces quatre types. Il y a une sous-intrigue très amusante avec l'un d'eux qui doit justement, qui a été engagé pour tuer une jeune femme. Et bon, bah, la jeune femme est une cible assez émouvante, et il ne peut pas arrêter, voilà, accomplir son travail, et il va même tomber amoureux d'elle. Donc voilà. Donc voilà, c'est toujours aller un peu à contre-courant. Il a réalisé un film de guerre qui est quand même très très connu en Corée et très réputé, qui est Bienvenue à Dongul, je crois que c'est ça. Dongul. Voilà. Qui n'est pas sorti chez nous, malheureusement. Je sais qu'il a été édité en DVD en Angleterre. Alors, ce film-là était adapté d'une de ses pièces de théâtre. Il a écrit le scénario, et semblerait-il, il a aussi réalisé officieusement le film. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, voilà. Et sinon, oui, ils ont passé Good Morning President. Bon, là, c'est pas génial. C'est une espèce de gros pudding, si vous voulez. C'est une comédie qui prend pour cadre, voilà, à chaque fois, un président de la Corée. Donc, on a un vieux président en fin de règne qui est un ancien militant, voilà, qui va laisser sa place à un jeune, voilà, mais qui a fait des grandes études et qui s'avère être un type très humain, voilà. Son motto, c'était comment dire, tu ne peux pas aider ton peuple si tu, comment dire, tu ne nourris pas ton voisin qui meurt de faim, tu vois, voilà, des choses comme ça. Et la troisième partie, c'est donc la successrice, oui. Donc, qui est une femme présidente, mais qui n'est pas aussi sympa que qui est beaucoup plus sympa que l'actuelle présidente, quand même. Et donc, qui joue beaucoup du décalage avec le mari qui se trouve, voilà, le premier homme, voilà, et qui a un peu du mal à assumer ce rôle, qui va se pochetronner avec ses amis de l'université et qui rentre complètement bourré à la Maison Bleue, quoi. Donc voilà, il y a des gars qui sont très très bien foutus et tout, mais on sait pas très bien où est-ce qu'ils vont en venir. Et bon, à la fin, on se dit, c'est pas si désagréable, mais quand on voit où en est la politique coréenne actuelle, je comprends que les gens l'ont un peu en travers, ce film.
Il a été réalisé quand?
Et en 2009. Voilà.
D'ailleurs, apparemment, il nous a dit qu'il voulait refaire voilà, une éventuelle satire
Oui,
politique
voilà.
actuellement qui pourrait être voilà, dans l'actualité
Voilà. Et
coréenne
c'est s'en prendre à
d'aujourd'hui.
l'actuelle présidente.
Et sinon, c'est quel film qui passe au FFCP? Lui qui en avait un dans les comédies romantiques, je crois.
Oui, je sais plus.
Non plus.
Donc on en
Mais il y en a un.
parlera de sa carrière. Ou
Voilà.
FFCP et
Ouais.
donc dans le focus sur les comédies romantiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est donc Man on a Hill, donc qui va être le premier film. D'ailleurs, c'est pour ça que on en parle en preview parce que ça va être le premier film de Jong Jin qui va sortir en France. Il va être distribué pour l'été 2016.
Zotrope qui le sort justement. Maintenant, en gros, c'est on reprend tous les codes du polar coréen typique. C'est ambiance nocturne, combat chorégraphié sous la pluie, c'est hyper graphique, c'est très violent. Mais voilà, il y a toujours cette espèce de regard un peu transversal, et là il le fait au travers de son personnage principal, qui est une espèce de modèle limite de virilité, quoi. Il te le présente au travers du regard des truands, qui l'ont limite un peu mythifié, quoi. Une espèce de flic impitoyable, que rien n'arrête, qui n'utilise pas d'armes, qui peut mettre en déroute une dizaine de truands à main nue. Voilà,
Un homme en vrai, quoi.
un homme un vrai. Mais cet homme, en réalité, n'a qu'un seul désir, c'est de devenir une femme. Voilà. Et il a beau être adulé partout, tout le commissariat qui le met en modèle. Bah, le soir, quand il rentre chez lui, enfin avant de rentrer chez lui, il passe à la clinique pour se faire injecter des hormones. Bon, voilà. Et d'ailleurs, son médecin lui dit, faites moins de travail physique, sinon ça va pas faire son effet. Donc voilà. Et à côté de ça, il va travailler en finesse le parcours de son personnage par des flashbacks où il va raconter son premier amour homosexuel. Voilà, on va mieux comprendre la relation avec certains personnages tout au long du film. Et puis, il y a aussi cette relation très ambiguë qu'il a avec le chef mafieux. Qui lui, par contre, a cette image, comment dire, hyper virile et qui veut absolument lui ressembler.
C'est vrai que c'est une des parties comiques du
Oui,
film, voilà,
voilà.
enfin, parce que c'est traité de manière assez sérieuse, justement,
Voilà.
ces stéréotypes du film noir, du film de genre. Et en même temps, il y a ce drame social, puisque lui passe auprès de ses ennemis comme de ses alliés, comme le modèle de héros masculin, de virilité, voilà, qui est surreprésenté. Or, lui, ça lui convient pas du tout, en fait. L'image intérieure qu'il a de lui,
Ah,
c'est celle d'une femme.
voilà.
Donc, c'est traité avec pas mal d'intelligence, de subtilité.
Et
Et il
puis
y a aussi
surtout
cette touche d'humour avec ce personnage de gangster qui l'adule, parce que justement, c'est un homme à vrai. Il aimerait tellement ressembler à ça dans son modèle de héros masculin. C'est celui qu'on voit dans des films de Kim Ji-woon,
Oui,
justement,
voilà.
on en a parlé. Donc, des personnages très, très masculinisés. Et donc lui a une espèce d'adulation comme ça, et le réalisateur joue assez bien sur les ambiguïtés, voilà, sur cette
Oui.
admiration. On sait que
Admiration qui, à la
le
fin, on
personnage est
peut penser que c'est une
transsexuel.
espèce de homosexualité refoulée, hein, quand même.
Voilà, et donc
Voilà,
c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est parce que c'est un film très grand public. C'est
Oui. Oui, tout à fait.
vraiment c'est un peu l'art. Voilà, c'est fait pour le grand public coréen. Et finalement, ça reste très audacieux
Oui.
au niveau des thématiques, au niveau des représentations donc des minorités
Bah oui, mais enfin, toutes les
sexuelles
scènes
de l'époque, quoi.
il rencontre le transsexuel qui lui parle un peu de ce milieu-là, parce que finalement il cherche à se faire opérer, mais il lui raconte que bon, voilà, c'est la transformation complète est très onéreuse et tout ça, et il va rencontrer différents transsexuels qui ont soit refait le haut, soit refait le bas, mais jamais tout en entier.
Sauf un qui a refait qu'un bras, je crois, une qui a refait, oui. Un qui a refait qu'un bras à un moment,
oui, voilà.
Qui a pas assez d'argent pour...
Voilà, et il se retrouve face à, comment dire, cette espèce de barrière économique, finalement, pour pouvoir vivre pleinement sa vie et sa sexualité. Et tu vois qu'il y a cette espèce de barrière sociale, économique et sexuelle, quoi.
C'est du binder, quoi.
Oui, mais avec beaucoup plus de légèreté, quand même, ouais. Voilà.
Voilà, parce que ça reste, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste un film de genre et un film grand public.
De genre
voilà, un film
oui,
de genre.
Oui, 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 sens du terme. Oui, voilà, exactement.
De genre, c'est le premier film de genre transgenre d'ailleurs.
Mais c'est ça.
Mais ça, c'est
transgenre.
Après, moi, le seul bémol, c'est que des fois, on sent qu'il ose pas trop aller à. Enfin voilà, aller à contre-courant de son public et de ce qu'on publie.
Bah, c'est produit par la Lotte.
C'est quand même pas
c'est
quand même audacieux.
C'est vrai que c'est déjà très audacieux, mais par exemple, il y a un baiser homosexuel. Voilà, ouais. Des jeunes, donc c'est la scène de flashback. Il est obligé de monter en parallèle un baiser hétérosexuel pour faire passer la pilule de ce baiser-là.
Parce que socialement, c'est en Corée.
Parce que socialement, c'est, effectivement.
Pas, alors, la Corée, c'est pas. Déjà que la France, parfois, c'est difficile. La Corée est encore loin. Ben... d'accepter l'homosexualité comme
on
peut l'accepter.
Après, on est loin de la vie d'Adèle, hein, pour le coup, c'est...
Oui,
voilà,
c'est non, mais, pas, oui, mais ça passe pas, ça.
Effectivement, ça, on s'en rend compte. Mais c'est vrai que je trouve voilà, qu'au bout de... On arrive à 1h20 de film à ce moment-là, et je pense qu'il aurait pu aller encore un petit peu plus loin dans sa représentation
Je me demande si la censure n'aurait pas...
Non, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a quand même... Enfin, on peut voir assez l'hypnotique. Il y aura en tout cas, je sais, deux films qui vont traiter l'homosexualité masculine. Non, un qui a été présenté, je crois, l'année dernière au FSCP. C'était Night Flight, il me semble.
Oui,
c'est vraiment assez réussi. Donc voilà, c'est l'un des films à découvrir. Il y en a un autre qui est paraît-il très bon. Donc voilà, mais en tout cas, ça, ils peuvent aller beaucoup plus loin dans le cinéma indépendant. Là,
sûr.
C'est quand même ça après, film à 6 millions de dollars.
Voilà, la limite, c'est ça, c'est qu'il est dans un film de studio, dans un film de genre, donc il ne peut pas aller aussi loin qu'on pourrait l'attendre sur ce.
Voilà,
sur
d'ailleurs, le film n'a pas du tout marché encore.
Mais c'est déjà très bien qu'il puisse, présenter ce type de personnage. Et en plus, le film est très réussi d'un point de vue esthétique, d'un point de vue polar, d'un point de vue de. Voilà, de blockbuster coréen, ça marche très bien. Et en plus, le sous-texte et la thématique est intéressante. Donc voilà. On en reparlera de toute façon de Man on High Hill, de Jung Jin. Et on va passer au film maintenant que vous pouvez voir maintenant en salle ou plus, parce qu'il ne joue plus, dont Misoku Sai de Kenichi Hara. Il joue encore dans 2-3 salles. Si vous ne l'avez pas vu, Justin va vous expliquer pourquoi il faut absolument aller le voir en salle tant qu'il est encore projeté.
Oui, donc c'est le nouveau film de ce réalisateur à qui on doit déjà Un été avec coup et Colorful, donc qui avait eu droit à des sorties sales à chaque fois pour ses derniers films. Et donc là, c'est donc un film d'époque, donc qui raconte en parallèle de l'histoire de la fille du peintre Hokusai. Donc au sein du Japon de l'ère Edo. Et donc, c'est pas un biopic, quoi, c'est plutôt... l'ombre de Kusai est en parallèle, hein, que ce soit au niveau du personnage ou de l'esthétique du film, mais c'est plutôt porté sur le destin de sa fille, donc à qui il confie des travaux et qui est elle-même peintre. Et donc, le film suit en parallèle son parcours, son travail. Et donc, c'est une sorte de portrait de femme... au sein de ce Japon, et donc on suit un peu le parcours, les difficultés à s'imposer en tant qu'artiste et en tant que femme au sein de ce Japon. Et donc il y a, par rapport à ces films d'avant, donc côté un peu écologiste qu'il y avait dans Un été avec coup, puis le côté un peu onirique, étrange, un peu dérangeant de Colorful, là c'est vraiment une sorte de classicisme, de vrais films d'époque où il y a quelques ruptures visuelles avec le pouvoir de certaines peintures qui peut intervenir dans certains moments du film. Et donc il y a ce rôle-là, et puis même au niveau de la musique, où il y a quelques contrepoints sur certaines scènes dramatiques où le côté un peu classique va être complètement bouleversé avec il y a du rock, il y a des moments un peu inattendus.
Ça commence avec du glam rock hein, quand même. C'est vrai qu'il y a ce côté très classique,
très posé,
portrait de la fin du donc de l'ère d'Edo, et puis tout d'un coup on présente le personnage et pour montrer son décalage aussi avec l'époque, il y a un peu de glam qui est montré.
C'est surprenant. Et donc c'est un portrait de femme, donc on essaie de montrer la recherche d'accomplissement de ce personnage, que ce soit à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme, avec des désirs, qui a des prétendants et qui cherche à s'accomplir sexuellement, et qui n'accepte pas complètement. Donc il y a ce côté-là aussi qui donne des moments assez surprenants dans la Japanime grand public. C'est pas des scènes qu'on a l'habitude de voir, des thèmes qu'on a l'habitude de voir, donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Donc c'est ce côté-là. Donc, après, moi, j'ai trouvé que ça aurait pu aller un peu plus loin du côté justement des scènes un peu oniriques, des scènes un peu plus fantastiques qui sont vraiment très réussies, et finalement il n'y en a pas assez, ça reste plus dans ce côté classique. Historique, et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'était vraiment très réussi quand ça va dans cette direction là, mais c'est une réussite quand même.
Il y a aussi un côté dramatique qui est très très forcé avec notre Mise Okusai qui est la petite sœur de Mise Okusai. Un côté dramatique qui, je pense, du coup met aussi une trame à l'histoire dans la seconde partie qui est peut-être nécessaire de aussi une ligne qui dirige l'histoire entre guillemets. Mais qui est vraiment imposé, très forcé, ça se ressent. C'est cette partie narrative, on voit la première phrase de là, on voit la fin venir dès le début.
Mais on sent qu'il a peut-être pas cru, ou on l'a pas laissé aller totalement dans ce côté,
totalement,
dans ce côté purement artistique sur le rôle des peintures ou le portrait de femme.
C'est lui qui voulait en fait raconter la partie avec la petite sœur. Il faut savoir, c'est adapté d'un manga. Le manga, en gros, c'est que les petites histoires sur le personnage de Oe. Et donc, il y a eu plusieurs tomes qui sont sortis. Et lui, il a gardé certaines histoires, il les a regroupées, et il a voulu avoir comme trame qui fait le lien, avec la relation avec la petite sœur qui a atteint de cécité. Alors oui, on sait où ça a mené. Mais moi, je trouve que ça donne les moments les plus poétiques du film. C'est vraiment la scène sous la neige, elle est d'une beauté, mais incroyable. J'aime beaucoup aussi quand elles sont sur le pont et tu te rends compte que voilà, l'une et l'autre avaient été. Les artistes, les grands artistes, les grands peintres, ce sont les gens qui ont un don de l'observation. Et elle a pas la vue, mais par contre, elle ressent les choses. Et tu vois qu'elle capte tout de suite, notamment quand elle...
L'émotion de sa sœur par rapport à l'homme avec qui elle avait une discussion.
Voilà, elle va tout de suite savoir qu'elle a des sentiments pour lui et tout. Et après, quand elle l'emmène, tu vois qu'elle partage cette espèce de moment d'observation, de joie et tout ça. Et c'est là où tu vois la fameuse vague de Kanagawa qui prend vie et tout.
Je dirais même que l'histoire avec la petite sœur, elle est vitale dans la façon dont le réalisateur veut exprimer son amour de l'art et puisque l'art finalement c'est l'expression des cinq sens, et pour moi cette histoire c'est une résonance de ce qu'il veut exprimer à travers l'art et ce que l'art représente pour lui. Donc pour moi elle est absolument vitale, cette histoire avec la petite sœur.
Après c'est plus au niveau du ton,
en soi c'est pas l'histoire qui me dérange. Je trouve qu'elle est comme vous avez tous les deux dit, nécessaire. On a besoin de l'histoire pour faire le film, parce que sinon c'est juste comme les mangas, juste des scénettes sans rapport. Mais
ces passages-là sont réussis, c'est plus la fin quand même.
Ce qui me dérange, c'est plus la fin, le côté de ce qui arrive à la petite sœur, que je trouve un peu.
C'est historique.
C'est historique, il n'y a pas de souci, mais c'est le ton, comment c'est amené, je trouve que ça m'a en fait justement un peu sorti du film.
Non, moi je l'ai vraiment assez dedans, surtout quand elle est malade et que donc le père qui est vraiment c'est un père absent, c'est-à-dire que je pense tu comprends qu'il aime sa fille, mais il a peur de la maladie, c'est quelque chose que il sait pas du tout comment réagir, et il lui fait un tableau, il dessine. Et elle peut pas voir, mais quand la Oe raconte à sa petite sœur le tableau, elle lui décrit, cette scène est vraiment bouleversante. Parce que c'est toujours la façon dont elles vont partager les univers, mais de manière avec une sensibilité différente. Et tout. Voilà, c'est, Après, oui, je comprends que certaines personnes ont pu être déçues parce que c'est une chronique. C'est-à-dire qu'on aurait préféré voir une espèce de grand biopic, voilà, on la voit vieillir et tout ça. Et non, au reste, c'est vraiment sur une période donnée de sa vie. De toute façon, on le voit, c'est à peu près un peu plus d'un an. C'est marqué par les saisons, et puis on voit aussi le chiot, on va dire, qui grandit à peine, quoi. Donc il y a vraiment des marqueurs temps qui sont quand même très très, très bien foutus. Et le manga a été a écrit, avait, la mangaka avait été, a voulu traiter le personnage d'Oe du même âge qu'elle avait, elle, quand elle a écrit. Elle a cherché à une espèce de résonance à travers ce personnage. Donc on sait très peu de choses, hein, finalement, si ce n'est que, oui, les spécialistes disent que, en effet, bon nombre de grandes œuvres de Kusai ont été faites à quatre mains, quoi. Si ce n'est qu'elle elle les a faites, certaines, en tout cas, au moins à la fin de sa vie, quand il était la main un peu tremblotante, et il signait ou il terminait les œuvres, quoi.
Mais c'est ça, le problème, c'est que je me suis moins senti bousculé que leur foule, qui est vraiment... film perturbant jusqu'à la résolution, on comprend de ce qu'il en tient. Oui. Là, le côté quotidien, c'est une des qualités, mais c'est aussi un défaut par rapport à ce qu'il a pu faire avant, où il était capable de un peu plus nous.
C'est un peu déconcertant, mais finalement, moi, j'étais vraiment porté par ce personnage qui est vraiment d'une très grande modernité.
En fait, moi, je rapprocherais beaucoup le film justement du dernier Corrida, notre petite sœur, qui est aussi une chronique à sa façon. Et c'est pareil, c'est des histoires qu'il a rassemblées de mangas des mangas et c'est des scénettes, quoi, des scénettes quotidiennes, même s'il y a quand même c'est assez linéaire, mais c'est une chronique, quoi, c'est la vie quotidienne de ces quatre sœurs. Là, c'est la vie quotidienne de Okusai et de sa famille. Et c'est vrai que dans Okusai, il y a plein d'histoires, plein de fils narratifs qui peuvent partir dans tous les sens. C'est vrai que chaque fil narratif, finalement, pourrait être développé en un seul film. Mais au final, c'est ce qui fait la richesse du film, c'est qu'il ne cherche pas forcément à développer toutes les histoires. Ça fait partie de la vie. Ça traverse le film comme ça. On rentre dans l'histoire, on sort, on rentre dans une nouvelle histoire, les histoires s'entremêlent comme ça. Et c'est ce qui fait, pour moi, c'est pour ça que j'aime le film.
Puis il y a une exploration d'une époque aussi qui est vraiment intéressante. De ses mœurs, qui étaient très libres, beaucoup plus libres en tout cas qu'elles ne sont aujourd'hui, et aussi du quotidien, et la façon dont c'est dépeint avec un réalisme, et puis de voir aussi tous les superstitions, finalement, la façon dont elles prennent vie dans leur vie tous les jours, c'est vraiment intéressant, quoi.
Donc, Misokusai de Kechihara est en salle depuis le 2 septembre. Depuis le 2 septembre, on peut. Oui, Justin.
Et qui fonctionne bien en plus, apparemment.
Il est encore à l'affiche dans 8 salles, je vais vérifier.
Bon, bah parfait. Donc, vous avez encore tout le temps d'aller le voir. Je ne sais pas si c'est le. Vous devez vous dépêcher d'aller le voir. On fait un geste comme quoi, c'est limite. Je ne sais pas si le Cemetery of Splendor d'Api Chapum, c'est cool, a lui aussi le même succès. J'en doute, en tout cas il est aussi sorti le 2 septembre, et là si vous ne l'avez pas vu, vous devez vous dépêcher absolument d'aller le voir. Je ne sais pas si quelqu'un veut en dire un mot, comme on a déjà beaucoup parlé, Elias peut-être.
Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est plus personnel en fait, plus mon ressenti sur ce film. Le fait en fait que j'avais très peu au final en fait entendu parler et vu des films j'arrivais pas à bien le dire, du coup je vais pas le dire. Voilà, merci. Et en fait,
Tu peux dire Joe, les gens comprendront.
Joe.
Les vrais comprendront.
Les vrais Joe. Sont sûrs, en fait, le fait est que j'ai vu Oncle Bonnie la veille du jour où j'ai vu Cemetery of Splendor. Et j'ai pas du tout aimé Oncle Bonnie. Pas du tout. Et voilà.
Là, c'est la gueule de Victor qui.
Je me doute que je vais faire totalement frapper à la fin du podcast. Et pas de soucis. En fait, Cemetery of Splendor, je pense que pour l'instant, c'est mon film préféré de l'année. Dans le sens que.
C'est mieux.
Je trouve en fait que dans ce film, je ne veux pas parler de la filmographie de Joe, parce que je ne connais pas assez bien pour pouvoir en parler vraiment, mais il y a un équilibre qui est vraiment trouvé entre l'onirisme, le réalisme, entre simplement la beauté et la vie de tous les jours, qui je trouve est assez rare dans le film en général. On arrive à un tel point d'équilibre que le film juste coule naturellement. Il y a des très belles images, il y a des très belles choses. On les voit et on est comme dans
un rêve.
Dans un rêve, enfin, je voulais dire, je voulais pas dire parce que ça faisait un peu trop bateau.
Bon, par rapport.
Bah, c'est tout quand on parle de Joe, mais j'aime beaucoup cette influence que je pense que je l'utiliserai.
Mais ce que je comprends pas, c'est parce que ça, je l'ai entendu justement que.
Je suis dans le même cas que
moi. J'aime beaucoup. Je préfère un peu Oncle Bonnie, mais en même temps, il y a une simplicité peut-être plus importante encore dans ces matériaux secondaires. Oui. Mais je vois vraiment le film comme dans la continuité de son précédent et de toute son œuvre d'ailleurs. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi on n'aime pas Oncle Bonnie en fait.
Dieu.
Bah en fait c'est que dans Oncle Bonnie
sachant qu'on
Oncle Bonnie a plus de côtés et plus surréaliste. Super Splendor, c'est un film qui est quand même très pas terre à terre, parce que c'est peut-être le truc le plus outrère qu'on peut dire
c'est toujours le surgissement du fantastique, du surnaturel dans un quotidien très réaliste finalement.
Mais c'est moins choquant à l'image.
On n'a
pas
de
scène de poisson chat, on n'a pas de singe avec les yeux rouges qui sort de l'écran. C'est au final un film qui, je pense, est une meilleure porte d'entrée dans le cinéma de. Je vais vous laisser le dire.
Joe.
Mais voilà, que de Joe. Mais en vrai, je trouve que c'est un film plus accessible et qui fait que même si vous n'avez pas aimé d'autres films de lui, dont Oncle Bonnie, donnez vraiment votre chance à Citizen Splendor parce que son néophyte ou totalement allergique à ses films d'avant, je pense que c'est un film qui peut vraiment, vraiment plaire.
On va faire un saut dans le temps, donc ces deux films sont sortis le 2 septembre. On va parler d'un film qui sort le 30 septembre, qui est Vers l'autre rive de Kurosawa Kiyoshi. Elias, puisque tu as la parole, je te la laisse, comme tu as vu ce film.
Bah, justement, comme on parlait un peu du côté un peu onirique, juste avant avec Joe, on avait quelque chose que je trouvais très bien dans Super Thunder, et que justement je trouve ça un peu... Pas raté, mais presque fade vers l'autre rive. Je pense que c'est un film qui veut dire beaucoup de choses, qui veut donner le côté, qui veut montrer cette frontière entre la vie et la mort qui est parfois très, très ténue chez certaines personnes ou chez certains esprits, notamment au Japon où il y a une part de spiritualité qui est très présente et où les esprits, comme a dit celui qui présentait le film quand j'y vais en première. Par exemple, les cimetières sont simplement mis dans la ville, sans mur. Enfin, c'est une expérience que cet homme a eue. Voir un cimetière dans une ville, sans mur, non séparé de la ville. Et comme quoi les esprits pouvaient simplement vivre, comme s'ils vivaient dans la ville avec nous. Donc tu as ce côté qui est très fin entre la vie et la mort, que Kiyoshi Kurosawa veut dire. Et ce côté...
Donc pour contextualiser, en fait, c'est femme... Qui retrouve son mari qui réapparaît comme esprit 3 ans après sa disparition et donc sa mort. Et finalement, cet homme va l'emmener dans plusieurs endroits qu'il a dû traverser depuis sa mort pour la retrouver. Et donc, avec elle, il va l'emmener dans cette espèce de voyage où effectivement le monde des esprits et le monde des vivants cohabitent sans que l'un ait forcément conscience de l'autre.
C'est un film qui est pas mauvais en soi, mais c'est un film qui m'a beaucoup frustré. Parce que j'aime beaucoup le Kurosawa Kiyoshi des années, des films d'horreur, etc. Et j'aime pas spécialement le virage qu'il prend d'un côté plus mélodramatique, un peu fantastique, qui me fait parfois penser à des films de Kaori Naomi comme Shara, ou dans le côté un peu avec les esprits, dans la vie de tous les jours. Et... C'est un peu mieux créal que j'ai vraiment détesté, mais pas détesté, mais qui est vraiment ennuyé. Mais Vers l'autre rive, c'est pas un film, mais c'est un film qui, je trouve, a quelques bonnes idées qui sont noyées dans un torrent de scènes à l'intérêt plus ou moins discutable. C'est un film qui ne m'a pas accroché, qui ne m'a pas spécialement intéressé. Et pourtant, j'en suis pas ressorti avec une idée mauvaise. C'est pas un mauvais film en soi, mais c'est un film comme on en voit beaucoup, et comme on peut en voir beaucoup, trouver beaucoup dans plein de pays. Enfin, pas dans plein de pays, pas du tout, parce qu'il y a un peu très japonais, mais qu'on peut trouver beaucoup au Japon. Et je trouve, venant d'un réal qui a la capacité d'être un très grand réal, dans ses plus grands films, c'est très décevant et presque indispensable.
Nicolas, t'es d'accord ?
Ouais, ouais, je suis assez d'accord parce que le problème pour moi c'est que je suis jamais vraiment rentré dans l'univers que m'a proposé Kurosawa parce que j'ai pas réussi à le trouver crédible en fait. J'ai un peu de mal avec cette représentation de l'esprit qui justement peut être comme tout le monde.
C'est un très bon manteau.
Voilà, si les personnages te disent. Voilà, et puis si les personnages te disent.
Ah, ils sont très bien amis dans le film.
En gros, si Kurosawa te dit pas que c'est un esprit. T'as du mal à deviner, même si bon, dans la mise en scène, la façon dont ça a amené, tu peux le penser rapidement parce que
oui, parce
tu réutilises les mêmes codes.
C'est pas forcément discursif quand tu le dis pas, c'est la mise en scène aussi qui fait apparaître ça. Et disparaître.
Le problème, c'est que t'as des bonnes idées comme ça, mais à côté, je trouve que le film est super répétitif. C'est-à-dire que c'est une quête où ils vont voir des gens. En gros, elle, c'est une histoire de deuil, encore une fois, c'est elle qui n'arrive pas à faire son deuil. Et c'est son mari en fait qui son esprit, l'esprit de son mari qui va lui l'aider à accepter sa mort et donc qui va l'emmener faire
c'est
voir les gens
idée, en soi,
voilà ouais. Qui va l'emmener voir les gens qui l'a aidé pour enfin qu'elle soit apaisée quoi que disent bon il a fait quelque chose il a fait quelque chose de sa vie entre guillemets il a peut-être accompli ce que devait accomplir et c'est pas grave quoi qu'il soit parti quoi et qu'elle aille de l'avant. Donc ça c'est à côté quelque chose qui est très amoureux dans le film, mais je trouve que dans le rythme, il y a des scènes qui sont vraiment plates des fois, qui durent des plombs. Là, il y a la troisième personne qui vont voir notamment où c'est dans l'impression je crois que c'est la personne à un moment où
la troisième personne c'est avec le tueur,
il y a un tueur, une histoire de il y a un deuxième couple. Pareil, oui, lui est mort aussi.
Ouais.
Et lui est beaucoup plus violent.
Spoil.
Non, mais c'est pas, tu le sais tout de suite, quoi. Mais lui est beaucoup plus violent.
Il n'y a pas d'enjeu dramatique comme ça dans le film en même temps. C'est très. Il peut y avoir des tueurs, il peut y avoir des fantômes, mais
c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus, violent, beaucoup plus perturbé que son mari à l'héroïne.
Excuse-moi, je te coupe.
Non, vas-y.
En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'avec le pitch, on avait une possibilité de faire un film où justement, il irait pas remonter sa vie, mais il irait avec plus d'étapes. En fait, je pense aussi que le fait qu'il n'y ait que trois étapes dans le film, d'y avoir que trois personnes, ça ralentit énormément le rythme du film parce qu'en fait, il va beaucoup s'attarder à chaque fois, dans chaque partie qui dure très longtemps.
C'est une demi-heure par partie.
Voilà, et c'est trop. Parce que, à part quelques très belles scènes, notamment je pense à une scène avec un piano qui est, je trouve, sublime, on s'attarde vraiment beaucoup trop sur ces trois scènes-là et je pense qu'il aurait. Il aurait mieux fait, c'est très prétentieux de dire ça, mais de faire un film avec plus d'étapes, plus de choses différentes, de remonter plus la vie de ce spectre et avec des fragments plus courts.
Vers l'autre rive de Kurosawa Kiyoshi est en salle depuis le 30 septembre. Nous allons clore ce podcast avec nos conseils et nos attentes hors Asie. Je sais pas qui veut commencer.
Moi, parce que
Elvire.
Sinon, je vais me faire piquer mes films.
Quel est ton conseil alors?
Mon conseil m'a déjà été un peu piqué puisqu'il était à l'Étrange Festival. C'était Moonwalkers.
D'accord.
Voilà. Qui sort fin janvier.
En même temps, il sort en
2016. Ouais, j'ai mon servir pour chaque podcast.
Exactement,
en fait.
Ça va être conseil. Fois,
je l'ai trouvé, c'est bon. Donc, qui est, comme l'a dit Nicolas, un super film à la fois bien foutu et très grand public. Donc. Faudra vite aller le voir en janvier. L'attente, vas-y. Je vais pas être très originale. Moi, j'attends le prochain James Bond.
Voilà. C'est vrai que Spectre. Jusqu'ici, tout le monde attend des Missions Impossibles.
Et maintenant, on attend Spectre. C'est bon.
Le générique, il est un peu à chier, en tout cas.
Oui, mais c'est pas grave.
Et maintenant, c'est Spectre.
J'attends quand même. J'attends quand même. Arrêtez. Ça sera très bien.
Conseil, en ce moment à la Cinémathèque, il y a la rétro Sam Peckinpah.
Ah oui.
Donc là, c'est l'occasion d'avoir sur grand écran quand même quelques grands classiques de plusieurs genres, hein, western, polar, la Horde sauvage,
les chiens de paille,
guet-apens.
Vous l'avez un d'ailleurs à l'étrange.
Ouais, à l'étrange, apportez-moi la tête
d'Alfred.
Ah oui, oui, carrément. Oui, donc voilà.
Et Pat Gat and Miyazaki qui est dans des trois plus beaux films du monde.
On est d'accord.
Pas de Gat et Billy the Kid.
Ah oui, bien sûr.
Donc là,
avec une BO de Bob Dylan qui est pas sortie, pas piquée des hannetons.
La scène où on entend Knockin' on Heaven's Door, d'ailleurs, qui est une scène absolument
sublime.
Magnifique, la scène où on entend le fameux morceau. Donc voilà, donc conseil et puis attente c'était le James Bond aussi, mais bon, je cherchais à couper l'herbe sous le pied. Hein. Donc voilà.
Donc du coup, il n'y en a pas.
Ouais, attention. Wow.
Martin.
Pour une attente. Martin.
Bah, l'attente, pour... alors déjà, je cherche le titre, mais j'ai complètement oublié, mais c'est le nouveau Spielberg. Bah, ouais, parce que ça fait quand même quoi, 2 ans
pour Bridge of Spies.
Bridge of Spies, bah, parce que déjà écrit par F.R. Cohen, réalisé par Spielberg et avec Tom Hanks. Donc, voilà.
Sans John Williams.
Oui. Mm. Bon, j'ai mis un John Williams quand même. Donc voilà, et j'ai juste vu la bonne annonce il y a quelques mois, et ça a l'air bien. Ah, voilà. Et puis j'adore Spielberg, donc c'est toujours bien mis en scène, bien dirigé. Et bon, même s'il y a certains projets voilà, que j'espérais qu'ils puissent mettre en chantier, enfin, c'était son Robot Apocalypse. Il y a un film de science-fiction qui a essayé d'adapter pendant je ne sais pas combien de temps. Et voilà, et ça a coûté trop cher. Enfin, ça coûtait beaucoup moins cher que n'importe quel Avengers, des conneries comme ça. Mais par contre, voilà, c'est pas tiré d'une grosse licence. Donc bah, maintenant, les
studios prennent peur. C'est quoi le dernier film de Spielberg avec Tom Hanks déjà, The Terminal hein?
Oui,
c'était bien ça.
C'était nul, putain.
Non, désolé, il
faut une vengeance. Il fallait pas taper sur les Avengers.
Je préfère le Terminal ou Avengers, ma personne.
Et alors, un conseil
je sais qu'il ressort Tom Popo au cinéma.
Tom Popo ?
Tom Popo.
Non.
Oh là.
C'est déjà ressorti d'ailleurs, c'est sorti.
Oui, c'est déjà ressorti, et donc voilà, c'est, si vous aimez les ramen, si vous aimez...
Non, on n'a pas parlé honte sur nous, si on
oui, voilà, mais c'est pour ça que
on en parle maintenant.
Merci voilà, non, mais voilà, ben, c'est absolument un film à voir, c'est délicieux, c'est drôle, il y a des petites scènes érotiques, et puis purée, enfin, je vous conseille une chose, c'est que quand vous allez voir le film, préparez une séance... Aller voir, aller ensuite au quartier de rue Sainte-Anne pour manger des ramen. Hein. Parce que vous allez crever de faim. Hein. Mais vraiment, pour moi, c'est un ravissement ce film, j'adore. Quoi.
Elias,
alors moi, ouais, à mon conseil, en fait, c'est un film qui n'est pas sorti en salle et qui est sur le net depuis le mois de juillet, mais comme sur le net, c'est pas grave, ça compte quand même. Ça s'appelle Salvoï Prakov, My European Dream. Et en fait, c'est un film qui a gagné le Brutal d'or, en fait, officiel du cinéma brut, qui est en fait en gros donc un film qui n'est pas produit, qui est totalement indépendant, et qui a été mis sur le net donc, par son réalisateur, un français qui s'appelle Raphaël Cheraski, je pense que j'écorche le nom. C'est un film totalement fou, je pense que c'est honnêtement un des films les plus fous que j'ai vu de ma vie. Et ça parle d'un espèce de journaliste qui vient de Storvik, un pays fictif, qui en fait vient en Europe, enfin vient en France, pour faire un tour d'Europe. Quand il commence de parler et tout. Et en fait, donc, il va vite tomber au fur et à mesure. On découvre qu'il a un passé assez sombre et qu'il y a même des actions assez bizarres. Il va être confronté aux problèmes de Paris, il va être confronté aux problèmes des gens qui ne sont pas toujours très sympas avec lui. Il va tomber plus profond dans une espèce de spirale infernale jusqu'au point de non-retour où il va vraiment, 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 vraiment partir dans la haine et la violence la plus extrême et un truc le plus dur. Je pense que j'ai vu la scène finale absolument affreuse. Et c'est vraiment un des films qui m'a le plus choqué et marqué dans ces dernières années. Et
tu me rappelles le titre ?
Salvoï Prakov, ton accent russe pourri. Salvoï Prakov, My European Dream.
C'est sur YouTube. Tu m'enverras le lien, comme ça on pourra le mettre en fin de podcast.
Hein. Et un film que j'attends, c'est totalement différent. C'est le prochain film de Ridley Scott. Parce que je suis un des seuls au monde qui aime Prometheus. Et en fait, je suis très content de voir Ridley Scott revenir à la SF parce que Cartel, c'est tout pourri et que Exodus, c'était pas mieux. Donc, j'espère qu'il va faire un film, même si a priori, vu des premières critiques, c'est pas le cas, qui va vite revenir en fait à un niveau, donc au moins petit Prometheus, qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui m'a un film qui m'a plu. Et donc, j'espère qu'il va sortir un film de SF bien pour la fin de l'année.
Bien, bien en tout cas, donc normalement le film devrait
pas trop. J'avoue que j'attends plus maintenant Blade Runner 2 que celle-ci.
Ah non, si tu veux le dévoiler, si c'est un.
Donc voilà.
Donc c'est nul, non, c'est nul.
Nicolas, alors ton conseil
Tu veux pas le faire, et puis moi je vais faire parce que j'en ai quelques-uns et je veux pas t'en piquer.
Mais sinon, j'ai un deuxième conseil que j'avais oublié. C'était,
c'est moi qui t'ai donné l'idée avec mon
truc. Non, parce que je suis revenu après. C'était en ce moment, il y a les deux Lady Snowblood qui ressortent chez HK Vidéo.
Il y a la critique de Yannick juste à côté.
En plus, donc. Et donc, c'est l'occasion de voir. Donc, c'est adapté d'un manga de Kazuo Koike. Et donc, c'est l'inspiration à moins 50% de Tarantino pour ses Kill Bill, en tout cas le premier volume 1. Quoi.
Et je dis un peu plus, mais. Il y a beaucoup d'inspiration
Dans il y a le chapitrage, le combat sous la neige,
la partie finale.
Et donc c'est l'occasion de voir, malgré la réputation que ça a, c'est assez différent des Baby Cart par exemple, alors que comme c'est du même auteur, c'est du Chambara, on s'attendrait à voir du Baby Cart au féminin, alors que c'est assez feutré, assez intimiste, et une histoire de vengeance pas du tout jubilatoire, c'est assez sombre. C'est intéressant avec une prestation intériorisée de Meiko Kaji. Donc c'est assez intéressant au niveau du traitement quand même, vu qu'on s'attendra du Baby Cart bis au féminin, et c'est complètement autre chose, plutôt intimiste, puis sur la condition féminine aussi du Japon de cette époque. C'est plutôt intéressant, surtout le premier. Le deuxième est un petit peu moins bon, mais quand même intéressant à regarder.
Donc les Listen Blood 1 et 2, c'est édité en
Blu-ray chez HK Vidéo, on l'attendait depuis longtemps en plus.
Alors moi mon conseil, c'est un film qui sort en novembre, donc on a un peu de temps, c'est Avril et le monde truqué. Je fais bien de parler,
je l'ai vu
la semaine dernière.
Il est fabuleux, hein,
vous êtes d'accord. C'est vraiment la résurrection de Jacques Tardy au cinéma. En fait, c'est lui qui s'est occupé
C'est Christian Desmarais et Franck Ekinci qui sont des génies de l'animation déjà à la base. Voilà, donc je te laisse expliquer pourquoi c'est un film magnifique.
Donc voilà, et c'est vrai que moi je suis très fan du Tardy, moins période où il parle de la Grande Guerre avec des récits assez sanglants et assez tragiques, mais plus de cette période où il y a des récits un peu scientifiques qui partent dans tous les sens, un peu vers l'onirisme comme ça, donc période les premiers volumes d'Adèle Blanc-Sec. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement dans Avril et le monde truqué. Ce côté très inventif.
Fais gaffe, parce que pour les gens, Adèle Blanc-Sec et Luc Besson, ils sont pas forcément à bon
souvenir. Oui, alors c'est aussi pour ça que je disais que ça a réconcilié Tardy avec le cinéma, puisque Besson a massacré, a sacrifié l'univers d'Adèle Blanc-Sec, donc avec Adèle Blanc-Sec, le titre, le film éponyme. Et là, on retrouve vraiment son univers dans ce qu'il peut avoir d'inventif, de poétique, de profond. Et d'extrêmement accessible d'ailleurs. Enfin, c'est à la fois un film pour enfants, mais très intelligent. Ça se passe dans un univers où l'histoire a été modifiée en fait depuis dans un univers dystopique tout à fait depuis les années 70 où Napoléon III meurt avant la guerre avec la Prusse, hein, et où les scientifiques sont enlevés.
Il y a un Napoléon IV du coup.
Donc il y a un Napoléon IV. Donc on part dans une histoire complètement différente. Et dans un univers assez loufoque qui pour moi c'est un des films d'animation français les plus inventifs depuis René Laloux, on va dire.
Il y a Mune aussi qui sort dans pas longtemps, qui est très bien, mais
celui-là Et je vais parler de mon attente alors, avant que tu me la piques. Enfin, je suis pas sûr en même temps, parce que mon attente, c'est The Visit.
Hein de, ah bah, The Visit. C'est mon conseil, en fait.
Ah, parfait. The Night. M. Shyamalan, qui était le plus grand cinéaste Spielberg, au début des années 2000.
Ça se discute. Hein.
Et ça se discute et qui s'est un petit peu perdu, même si j'aime plutôt bien After Earth et ce qu'il a fait plus récemment. Et donc là, j'attends. Et peut-être que Nicolas, je vais te laisser la parole. Est-ce que c'est le retour donc de Shyamalan ?
Eh ben oui, parce que c'est vraiment le Shyamalan dont on a l'impression qu'il fait un vrai retour aux sources avec un film très personnel où qu'il a fait presque tout seul. C'est lui qui s'est presque autofinancé avant de faire appel au studio Blue, je sais plus quoi, ceux qui financent Paranormal Activity et toutes ces daubes. Sauf que comme c'est lui qui a vraiment initié le projet, donc c'est vraiment lui qui a eu l'emprise sur le film. Et ça sent, c'est-à-dire que ça revient vraiment à ces thématiques plus personnelles. Le film ces fantômes perdus, c'est toujours ce côté onirique, le conte est jamais très loin, et puis c'est aussi un film très effrayant, il faut pas croire, et en même temps très drôle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour par rapport aux grands-parents et tout comme ça, mais c'est jamais moqueur, tu vois, c'est toujours, au final c'est un vrai respect pour les grands-parents, les deux enfants qui ont été... qui jouent dans le film sont absolument fabuleux, surtout le garçon qui est, dès qu'il sort une réplique, on est obligé de te marrer, quoi. C'est vraiment un super comédien. Et voilà, c'est un film qui parle de plein de choses. On retrouve toutes les thématiques de Shyamalan. On retrouve plein de niveaux de lecture aussi. L'utilisation, on pouvait penser au départ l'utilisation du found footage, le côté documentaire, ça va être encore un truc à la Paranormal Activity. Pas du tout. Il y a vraiment une réflexion à ce niveau-là, une mise en abîme. C'est vraiment justifié. Donc voilà, courez le voir, il sort début octobre, je crois.
Oui, c'est très bientôt, là, le 4 ou le 7. Mmh. Enfin, c'est...
Voilà, donc vraiment un vrai retour, puis il y a des bonnes scènes de flip quand même, notamment une petite partie de cache-cache sous la maison qui m'a voilà pas mal. Genre.
Et ton attente alors?
Attends, j'avais d'autres conseils, moi j'ai toujours plusieurs conseils. Bon bah il y avait Avril, le bon truc, tu l'as pris, donc j'ai pas besoin de le reconseiller, c'est cool. J'avais notre petite sœur, voilà,
petit passage rapide.
Voilà.
On en reparlera le mois prochain,
mais voilà, si comme il sera comme le podcast, on le fera début novembre. Et qui sera déjà sorti, donc 28 octobre, donc allez le voir.
Et oui, je pense que tous ceux qui l'ont vu ici voilà. Conseillent notre
petite sœur. C'est un film fabuleux, ne croyez pas tout ce qui a été dit à Cannes, c'est que des conneries. Voilà.
Sauf ce qu'on a dit,
nous. Et le dernier conseil, c'était Sicario de Denis Villeneuve, qui sort le 7 octobre, qui est juste une bombe atomique, un thriller, une vraie guerre contre les cartels dont on rêvait au cinéma depuis longtemps, et Denis Villeneuve l'a fait, donc allez le voir, c'est une tuerie, ça fait penser à du Michael Mann, c'est avec un Benicio del Toro comme on l'avait pas vu encore, qui est juste absolument exceptionnel, le charisme qui crève l'écran comme on avait envie qu'il crève l'écran depuis longtemps, donc vraiment courez le voir, il est vraiment génial.
Si c'est mieux qu'Ennemi,
hein?
Si c'est mieux qu'Ennemi.
C'était particulier.
Moi j'aime bien Ennemi.
Bah, c'est pas du tout pareil en fait. Là c'est vraiment le pur thriller.
C'est l'autre que j'ai pas aimé.
Prisonnier.
C'est pas pareil non plus, c'est vraiment différent quoi.
Marc,
j'ai pas dit mon attente, mais je sais pas, je vais vous dire après.
Mais t'as tout vu, t'as pas vu.
Non, mais t'as plus d'attente.
Voilà, quelle est dans l'attente alors?
Attends, mais je l'ai retrouvé. J'appelle, vas-y Marc, dis tes.
Est-ce que t'as un conseil ou une attente? Quelque chose que tu veux voir? Rien.
Ah si, mon attente, c'était les nouvelles aventures d'Aladin.
tout ça pour ça.
Je crois que ça clôt magnifiquement ce podcast. Bah, merci à vous de nous avoir suivis deux heures du vent. On voulait faire court ce soir. Finalement, ce fut quand même assez conséquent. Merci à l'Étrange Festival. Et rendez-vous dans un mois pour parler de cinéma coréen, entre autres. See you, Space Cowboys.
Salut.
Love and peace, お前を忘れない。